Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Nous allons ouvrir notre Bible. Je vous propose que nous lisions, que nous allons faire la lecture tout à nouveau de notre texte que nous avons lu tout à l'heure avant de commencer notre culte. On va le reprendre parce que je pense que vous connaissez bien ce passage, mais est-il besoin que nous nous en imprégnions bien et que nous puissions, eh bien, à travers ces versets, cette parole, eh bien, trouver l'instruction, la consolation peut-être, l'enseignement nécessaire. Ézéchiel, chapitre 47. Ézéchiel, chapitre 47, verset 1. Alors, Ézéchiel, c'est un livre peut-être que nous n'ouvrons pas souvent parce qu'il est un petit peu difficile, visionnaire, certainement prophétique, absolument. Mais nous avons dans ce passage, ce texte qui est un texte de référence, eh bien, tout un enseignement qui nous est donné. Alors, Ézéchiel 47, verset 1er. Il me ramena vers la porte de la maison, et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, comprenez le temple, à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour en dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale, et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées, c'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager, c'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, « As-tu vu, fils de l'homme ? » Et il me ramena au bord du torrent. Quand ils m'eurent ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera, et il y aura une grande quantité de poissons. Car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Des pêcheurs se tiendront sur ses bords, depuis En-Gedi jusqu'à En-Glaïm. On étendra les filets, il y aura des poissons de diverses espèces, comme les poissons de la grande mer. Et ils seront très nombreux, ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point, et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. » Alors, que Dieu nous bénisse à travers sa parole ouverte ce matin, et j'aimerais établir notre réflexion sur deux pensées. À travers ce texte, il est question de torrents, il est question de rivières, il est question de cette pénétration, finalement, et bien de l'Esprit de la grâce de Dieu. Et j'aimerais donc, autour de deux mots, et bien réfléchir sur ce que le prophète de la part de Dieu nous laisse. J'aimerais vous parler des murs et des ponts. C'est peut-être un petit peu original, mais c'est ce que suggère le texte, et je vais m'expliquer. Vous savez qu'avec des murs, on sépare, et avec des ponts, on relie. Tout le monde connaît cela, là où nous sommes, dans cette région, il y a des très très beaux ponts. Un pont offre deux possibilités d'usage. D'abord, laisser passer le fleuve et éventuellement la circulation fluviale, par le dessous naturellement. Et puis, un pont également franchi nous permet de franchir l'obstacle pour aller sur l'autre rivage. C'est très pratique un pont. Pendant des années, vous avez dû faire le contournement par Nantes pour aller à Saint-Brévin. Hein? Mais maintenant, depuis une trentaine d'années, il y a un pont. Alors, on voit combien c'est pratique. Avec les mêmes pierres et avec le même mortier, on peut faire à la fois des ponts et on fait des murs. Enfin, je ne suis pas un architecte, hein, génie civil, mais enfin, toujours est-il qu'on peut comprendre un peu ce que ça veut dire. Cependant, au résultat très différent, avec les mêmes pierres et avec le même mortier. L'un pour laisser passer et l'autre pour barrer le passage. Un pont est le symbole d'alliance, c'est vrai. Quelquefois, dans des traités de paix, eh bien, on a construit des ponts entre deux pays. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe entre la frontière française et allemande. Hein. Pendant un moment, eh bien, les ponts étaient interdits. Mais c'est un symbole d'alliance et de rencontre. C'est un symbole de liberté aussi qu'un pont. On peut aller et venir. Un mur, c'est le symbole du confinement. C'est une sorte de frontière. On met des murs de sinistre mémoire, on pense à Berlin. Et puis, il y en a eu d'autres, hein. Alors que ce soit des murs de pierre, ou des murs de fer, ou des murs de bambou. Mais ça veut dire tout simplement la même chose, ou des murs de barbelés. C'est toujours une sorte de frontière, voire de protection. Dans un sens, ça peut servir, mais d'un autre sens, eh bien là, il y a quelque chose de très négatif. On peut parler même de protectionnisme. On élève des murs, comme ça on ne passe plus. Alors, nous voyons que dans notre récit, pour y venir, il y a, vous avez remarqué avec moi, dans les premiers versets que nous avons lus, il y a l'association du torrent, de la source, association d'un ruisseau et de la vie spirituelle. Parce que c'est bien cela ce que le prophète veut nous montrer. Torrent, rivière, fleuve, ruisseau, égale vie spirituelle pour nous si nous l'interprétons de cette manière. Et ça, c'est très fréquent dans l'écriture. J'aimerais vous donner quelques preuves de cette réflexion. Par exemple, je cite, dans le psaume 36, il est dit ceci, « Tu les abreuveras au torrent de tes délices. » Donc, venant de Dieu, il y a quelque chose dans ces torrents qui descendent du ciel, quelque chose de délicieux. Et puis il y a l'image, c'est bien sûr l'image du bonheur qui vient de Dieu. Dans le psaume 65, il est dit ceci, « Tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance, tu la combles de richesses, et cette belle parole, et le ruisseau de Dieu est plein d'eau. » Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Ça c'est beau. Pour nous montrer l'infini ou les infinies prodigalités divines sur sa création. Il a plu cette nuit, ça soulage. Hein. Il y en a qui l'attendaient, hein. Et ça descend du ciel. Et on peut bénir le Seigneur pour ça. Dans Ésaïe, chapitre 58, il est dit aussi cette belle parole pour montrer cette association de torrents, fleuves, ruisseaux avec la vie spirituelle. L'Éternel sera ton guide, il rassasiera ton âme dans des lieux arides, il redonnera de la vigueur à tes membres et tu seras un jardin arrosé. Tu seras un jardin arrosé comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. C'est aussi une très très belle citation. Bref, il y en a d'autres comme ça, on aurait pu les multiplier peut-être par 10, par 100 et peut-être davantage. Revenons à notre texte, le prophète Ézéchiel reçoit la vision d'une source jaillissante du sanctuaire. C'est les premiers versets que nous avons lus. Les détails qui nous fournissent le récit sont infiniment subjectifs. Successif, quant à la réalité de la vie morale et spirituelle, finalement, des hommes. Et c'est pour cela que ce texte a été écrit, il a été donné, finalement, pour le peuple d'Israël, mais ô combien il nous est précieux encore aujourd'hui de pouvoir puiser dans ces détails, parce que cela fortifie, finalement, et nous donne le sens de ce que Dieu attend de nous dans cette vie spirituelle et cette vie qui descend naturellement d'en haut, cette vie de l'esprit. Ici, dans notre lecture, il s'agit sans aucun doute, du merveilleux symbole de la grâce. Parce que je voudrais vous parler de la grâce de Dieu ce matin. Elle présidait déjà dans l'Ancien Testament. De cette grâce qui vivifie les hommes. Cette grâce qui descend du ciel comme un torrent qui guérit et qui change le mal en bien. qui est capable de retourner l'ordre des choses, qui est capable de modifier finalement, eh bien, sous l'onction de Dieu, dans la puissance de son esprit, de changer finalement les choses. Passer le descriptif de ces deux premiers versets que nous avons lus, qui indiquent d'où vient le torrent, c'est-à-dire là d'où il vient et où il va, puisqu'il s'agit du temple de Jérusalem, c'est toujours symbolique naturellement. Nous nous apercevons que lorsque nous faisons l'étude des versets 3 à 5, ces versets-là s'arrêtent sur l'expérience que fait le prophète qui s'avance dans le torrent, parce qu'il en a reçu l'ordre, d'avancer, de descendre dans le torrent, qui va marcher dans le lit du torrent, du ruisseau, jusqu'à perdre pied. Et il le décrit bien, il le dit. On comprend la grâce et l'amour de Dieu. C'est souvent les enseignements qui sont donnés par les prédicateurs autour de ce texte pour révéler la grâce et cet amour infini de Dieu, qui sont illustrés par ces eaux impétueuses qui portent la vie, eaux surnaturelles, lorsqu'elles descendent d'en haut, eaux miraculeuses à tel point qu'à une certaine distance, alors que le prophète va rentrer jusqu'aux chevilles, ensuite il va faire quelques pas, 1000 coudées, nous est-il dit, jusqu'au genou. Ensuite, encore 1000 coudées, il va aller jusqu'au rein. Et puis ensuite, il va s'apercevoir qu'il ne peut pas aller plus loin parce qu'il est emporté. Mais pour illustrer finalement que ce torrent de Dieu dont il est question, touche différents éléments de notre vie. D'abord, le prophète est touché au niveau de ses chevilles, qui est l'image de notre marche. Image, finalement, de notre manière d'avancer, notre manière de vivre, notre marche. En d'autres termes, ces eaux qui vont rendre droit ce qui dévie. Vous vous souvenez l'histoire du fils prodigue ? Une des premières choses que le père, en l'accueillant dans sa maison au retour, va lui donner, ce sont des souliers. Pour qu'ensuite, sa vie puisse être une vie de droiture. Mettez-lui des chaussures aux pieds, dit le père en l'accueillant. Ça, c'est la grâce de Dieu aussi. Vous connaissez la parabole du fils prodigue. Et puis le prophète va aller plus loin, il va compter encore et il va s'avancer jusqu'au genou, qui est l'illustration peut-être simpliste mais quand même réelle de notre vie de prière. Les genoux, c'est aussi quelque part l'image où nous nous courbons devant Dieu pour lui demander. Et puis non seulement notre vie de prière mais aussi notre allégeance. Quelqu'un qui plie les genoux, c'est quelqu'un qui fait allégeance à un seigneur ou à un roi, à un maître, à quelqu'un qui est supérieur. Plier les genoux, c'est ce que ça veut dire. Donc, c'est aussi cela, la grâce de Dieu, nous amener à le reconnaître. Nous amener à reconnaître qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Et c'est tout le sens de ce que nous pouvons appeler dans ce verbe « s'agenouiller », ce que nous trouvons dans ce verbe. Ensuite, le prophète va aller plus loin et puis il va marcher. Il va aller encore plus avant dans la pénétration de ce torrent, de ce ruisseau, de cette rivière, ce fleuve, parce que ça devient maintenant un fleuve. Alors, il va aller jusqu'au Rhin. C'est l'image de notre force charnelle, de notre force humaine, qui reste encore finalement ce qui fait nous des hommes, certainement, mais de cette force charnelle et humaine qui est transformée en force spirituelle. C'est à ce moment-là que l'homme ne peut plus se porter. Il ne peut plus dire « j'ai pied ». Et c'est quand on n'a plus pied que Dieu prend le relais. C'est quand on commence à finalement, nous avons une belle image, et je relis ce verset quand il est dit qu'il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. L'eau était si profonde qu'il fallait y nager. Ça, c'est la merveilleuse illustration de la grâce qui découle de ce torrent. Une grâce qui est si abondante qu'elle nous soulève et qu'elle nous emporte. Et quelle interpellation pour le peuple de Dieu de savoir aujourd'hui s'il marche jusqu'aux chevilles, s'il marche jusqu'aux genoux, s'il marche jusqu'aux reins. Il a encore pied. Il est encore sûr, finalement, de lui-même. Mais à partir du moment où là, vraiment, le flot nous soulève et que nous nous abandonnons dans la foi, dans la confiance totale et complète entre la main de Dieu, et que là nous nageons, c'est autre chose. Que nous sommes transportés, où Dieu veut nous conduire. C'est encore une autre idée, une autre pensée. Alors, nous voyons que le prophète arrive à cette distance, à tel point qu'il est obligé de revenir au rivage, au risque d'être submergé et emporté. Et la vision n'est certainement pas sans nous rappeler ce que nous dit d'une manière peut-être quelque peu géométrique, mais l'apôtre Paul dans Éphésiens chapitre 3, quand nous lisons ces paroles que nous avons commentées il y a quelque temps ensemble, quand il est dit ceci, « À cause de cela, je fléchis, lui aussi, se courber. Je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit. » Nous avons la même pensée que ce que nous développons dans Ézéchiel, « dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour. Que vous puissiez comprendre avec tous les chrétiens, tous les saints, quelle en est la longueur, la largeur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, débordants, immergés, submergés, c'est moi qui ajoute, hein, jusqu'à toute la plénitude de Dieu. » C'est la même pensée, c'est la même image qui nous est donnée. Dans le verset 6 de notre récit, il nous est dit ces paroles, je relis, où l'ange, interpelle le prophète et lui dit, « Mais as-tu vu ? As-tu vu, fils de l'homme ?» Et il nous est dit qu'à ce moment-là, l'homme, l'ange, le ramena sur le rivage. Il y a une raison. Question d'importance, as-tu vu ? Connais-tu ? As-tu vu ? Question d'importance que chacun devrait se poser, et j'aimerais poser trois aspects de cette question. Simplement, pour stimuler notre réflexion ce matin. La première chose, c'est d'abord la progression ou l'augmentation des eaux. On sait ce que c'est qu'un torrent. On sait quand les eaux s'écoulent normalement, mais quelquefois, à la fonte des neiges, il est impétueux. Il est même dangereux. Et si vous allez en montagne, vous verrez très très souvent, à tous les chemins qui conduisent à un torrent, vous verrez une petite pancarte qui vous dira qu'il faut faire très attention parce que la montée des eaux peut être subite, peut être brutale, soudaine. Alors, ça c'est la première question, la progression ou l'augmentation des eaux, torrent de grâce, que nul ne peut arrêter. Il grandit sans cesse, nous dit la parole de Dieu. Et n'est-ce pas une invitation à nous laisser, je dirais, transporter même, voire même nous laisser porter? Et la question que nous pouvons nous poser à nous-mêmes, mais quelles sont nos retenues pour ne pas nous laisser emporter par ce torrent? Et vous savez, dans l'Église de Jésus-Christ, il y a beaucoup de retenues. On verra ça tout à l'heure. Beaucoup de choses qui nous retiennent sur le rivage. Ou beaucoup de choses lorsque nous sommes au milieu, que nous avons fait les expériences, nous revenons sur le rivage. Des choses qui tarissent en nous, des choses qui s'assèchent, pardon, quelque chose qui fait en sorte que Dieu voudrait nous conduire peut-être beaucoup plus loin, mais il y a parfois des murs, il y a des barrages, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Quand on veut arrêter le cours d'un fleuve, on y place un barrage. C'est très impressionnant d'un côté, comme de l'autre d'ailleurs. Et on sait très bien qu'il y a une production d'énergie qui est utile aux hommes. Mais néanmoins, on s'aperçoit que bien finalement, ceux qui sont en aval, eh bien, ne reçoivent plus d'eau ou reçoivent très très peu d'eau. Enfin, c'est peut-être les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui dans nos vallées, parce qu'on a arrêté le cours des rivières. Bon, c'est une autre affaire. Ça, c'est la première question d'importance. La deuxième question, c'est ce même torrent veut nous inonder pour nous laver complètement de nos fautes. Ça, c'est un autre aspect des choses. L'eau. Il y a quelque chose de supérieur que l'eau dans la Bible pour laver nos péchés. C'est le sang. C'est le sang de Jésus, mais nous allons parler de l'eau. On peut associer le symbole. Dans Zacharie, chapitre 13, et au verset premier, il nous est dit ceci pour illustrer justement que ce torrent veut nous inonder, nous laver. Quand nous lisons ceci, en ce jour-là, dit Dieu, une source sera ouverte. On la devine, elle s'appelle Golgotha. Hein, pour la maison de David et les habitants de Jérusalem, pour le péché et les impuretés d'Israël. Les larmes, c'est de l'eau qui coule, qui jaillissent. Mais ce sont de l'eau de la repentance. Oui, c'est la repentance qui purifie. C'est Dieu qui purifie les hommes, puisque toujours dans le livre du prophète Zacharie, au chapitre 12, nous avons aussi ce texte au verset 12, verset 10. Alors Dieu dit, « Je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, et il ajoute, « Ils pleureront sur lui, comme on pleure. Sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. » Ça, c'est un autre aspect, justement, de ces eaux qui coulent. Torrent symbolique de la grâce pour Israël, torrent symbolique pour nous, chrétiens de l'Évangile. Mais c'est une réalité parce que tout découle de l'autel. Vous l'avez vu avec moi, les deux premiers versets, il nous est dit que ce courant d'eau, ce torrent, sortait finalement de la maison, de l'autel. Qui n'est autre, nous le comprenons facilement, qui n'est autre que le calvaire sur lequel l'agneau de Dieu a été immolé pour ôter les péchés, pour ôter nos péchés, pour ôter mes péchés. Cette source-là est faite de sang, nous l'avons vu tout à l'heure. Et ce sang-là jaillit sur l'humanité en torrent, qui ne s'arrête jamais parce que ça fait 2000 ans que ça coule. Ça fait 2000 ans que l'agneau a été immolé et que le sang coule toujours, en quelque sorte. Et que tous ceux qui s'approprient finalement cette purification sont aussi purifiés, ils sont aussi justifiés. Ils sont mis à part. Un torrent puis un fleuve de grâce, un fleuve miraculeux. Lorsque nous restons dans le cadre de l'Évangile, dans sa pensée originelle, quand nous parlons de miracles, de surnaturel à travers la guérison divine, à travers le relèvement de tous ceux qui en ont immensément besoin, c'est toujours la même vertu, c'est toujours la même puissance, c'est toujours le même courant. Donc la guérison, un flot guérisseur, un flot rédempteur. Alors la question qui est posée à chacun, peut-être ce matin dans notre réflexion, as-tu vu ? Ou connais-tu ? Ou peut-être pour nous, peut-être d'une manière plus précise, n'as-tu pas oublié ? Est-ce que réellement, dans ta vie, ce flot coule encore ? Est-ce que tu en saisis encore les mêmes vertus qu'au moment où tu t'es converti ou au moment où tu as découvert la grâce de Dieu ? As-tu vu ? Et peut-être je paraphraserai, je dirais, mais Dieu pourrait nous dire, mais non seulement as-tu vu, mais le vis-tu ? Parce que c'est encore une autre chose de l'avoir vu et de le vivre. La troisième question que suggère cette parole, c'est celle-ci. Il nous est dit, il me ramena au bord, tout simplement de la rivière, au bord sur le rivage. Pour nous montrer encore une fois de plus, s'il était nécessaire que la grâce infinie de Dieu n'est excellente, elle est excellente, mais elle n'est excellente, si vous me permettez cette nuance, que dans la mesure où l'on ne la garde pas égoïstement pour nous. La grâce de Dieu n'est pas faite pour nous seuls, dans une sorte de recroquevillement égoïste et mystique, mais ce que chacun a trouvé au milieu du torrent, c'est-à-dire au cœur même du sacrifice de Jésus, au cœur même du message évangélique. Alors au cœur même du torrent, il faut le ramener sur les bords. Et je vais vous expliquer pourquoi, pour le partager avec d'autres. Nous pourrions peut-être nous renfermer dans une tour d'ivoire en disant « Je suis sauvé », comme nous le chantons. « Jésus est merveilleux, je suis sauvé. J'ai déjà la vie éternelle, je suis déjà dans la gloire. » Enfin, pas tout à fait. Mais nous pourrions peut-être le penser. Et finalement, nous renfermer avec des murs, dans une sorte de mysticisme, dans une sorte de spiritualité qui n'est pas de bonne aloi. Parce que le but que Dieu nous a assigné n'est pas de nous renfermer sur nous-mêmes, mais au contraire d'aller, ce sont les dernières paroles testamentaires de Jésus, aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Va, raconte tout ce que le Seigneur t'a fait, dira-t-il aux Gadaréniens. Et puis, il multipliera comme ça ses injonctions de porter. Alors, il faut revenir sur les bords pour partager avec les autres, d'autres qui sont assoiffés, comme nous l'avons été avant de connaître le Seigneur, d'autres qui sont affamés, d'autres qui sont desséchés aussi. Plénitude certainement que de connaître les joies d'être au milieu du torrent, mais il faut rester les pieds sur terre. Et c'est pour ça que là, l'ange ramène finalement le prophète sur le rivage. C'est bien de pouvoir vivre ces moments d'extase extraordinaires. Et Dieu nous les donne, et parfois nous en avons besoin, il nous les donne au bon moment, dans nos épreuves, dans nos difficultés. Mais à un moment ou à un autre, il faut revenir sur le rivage. parce que nous ne sommes pas seuls. Et à ce moment-là, eh bien, il faut avoir les pieds sur terre, reprendre pied pour aller vers ceux qui ne connaissent pas et qui ont besoin. Car vous savez aussi bien que moi, et ce n'est pas un scoop que je vais annoncer ce matin, mais l'homme est fait pour marcher sur la terre. Hein. Exceptionnellement sur la lune. Et encore exceptionnellement pour marcher sur les eaux, vous pensez à Pierre naturellement. Mais c'est exceptionnel. Mais autrement, nous sommes faits pour marcher sur la terre. Et c'est toujours à titre exceptionnel quand ça arrive. Au quotidien, non. Restez, c'est vrai, tout imprégné de cette expérience que nous avons eue au milieu du terrain, mais nous savons que, et nous voyons que l'ange le ramène sur le rivage parce qu'il y a une raison. Le verset 7 nous dit ceci, à travers notre lecture. Je relis le verset 6. « As-tu vu, fils de l'homme ? Et il me ramena au bord du torrent. » Quand il m'eut ramené, voilà le verset 7, voici, il y avait sur les bords du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Avez-vous remarqué qu'il y a un nouveau miracle qui se produit ? Un miracle ? En quelques instants, une végétation luxuriante a poussé, sortie de je ne sais où. Elle a poussé. Et cela nous rappelle finalement, eh bien, en quelque sorte, ce que Jésus nous dit dans là, cet évangile de Jean au chapitre 8, au verset 38, me semble-t-il, quand il dit aussi, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Voilà ce que Jésus nous dit. À partir du moment où nous nous sommes avancés, eh bien, il y a quelque chose qui va sortir de nous-mêmes. Paul dit que nous sommes, ou nous devrions être plutôt, le temple du Saint-Esprit répand autour de nous la vie et la fécondité spirituelle, des fleuves d'eau vive. Je me suis trouvé au milieu du torrent, je suis revenu sur le rivage, et Dieu m'a rempli de plénitude. Et à ce moment-là, eh bien, je peux dire à tous ceux qui croient, finalement, eh bien, ils peuvent partager, je suis aussi vecteur, communicateur de cette vie, de cette eau, de la vie. Et là, la vie va se manifester autour, tout autour. Ils couleront de son sein. Alors là encore, qu'en est-il ? Qu'en est-il de cette expérience ? Est-ce que, devant cela, eh bien, nous avons mis des murs ou nous avons mis des ponts ? Dans notre vie personnelle, est-ce que nous érigeons des murs sur nos rivages ? Ou alors nous mettons des ponts pour aller ? Parce que nous avons cette injonction d'aller vers, de porter à. Nous avons besoin de nous rappeler cette promesse, s'il est besoin. Ce que nous avons lu tout à l'heure dans un des psaumes, « Tu seras comme un jardin arrosé. » Ce n'est pas un jardin abandonné, desséché, mais un jardin arrosé. Ce que nous devons être en tant que chrétiens. Ce que nous devons être en tant qu'enfants de Dieu. Ce que nous devons être en tant que disciples de Jésus-Christ, là où Dieu nous a placés, un jardin arrosé. Vous êtes-vous déjà promené dans les beaux jardins de nos villes ? Peut-être qu'on fera une visite tout à l'heure au parc paysager, s'il vous plaît. Mais c'est très agréable d'être sous les frondaisons, d'avoir finalement eh bien, les ruisseaux, d'avoir de la fraîcheur. Il a fait chaud dernièrement, là. C'était très agréable de se mettre à l'abri, de se mettre un petit peu à l'ombre, de chercher la fraîcheur. Eh oui. Et Dieu veut que nous soyons comme un jardin arrosé. Si nous sommes desséchés, si nous avons érigé des murs autour de nous, et par contre, si nous faisons des ponts, alors ça c'est autre chose, que nous devions verdoyants et productifs, une source dont les eaux ne tarissent pas, nous dit la Bible. Et en particulier cette citation de Jérémie que vous connaissez bien et que je place encore devant vous parce qu'elle est très belle. Quand nous lisons cela, « Béni soit l'homme !» Alors vous connaissez la suite, est-ce que je dois le dire ? Oui quand même. « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, et il y a hélas parfois des années de sécheresse, de tribulation, de souffrance et de douleur, eh bien il nous est dit qu'il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. » Vous savez, tout cela rejoint ces grandes paraboles de Jésus telles que le cep et les sarments. Et puis bien d'autres choses où il nous est parlé de prospérité spirituelle, de développement spirituel, mais cela, on sait très bien que la vie ici-bas et la vie spirituelle ne peut pas se développer sans l'eau, sans de l'eau, ou l'eau d'en haut, les fleuves d'eau vive, c'est pas possible. Que ce soit en communauté, que ce soit dans notre cercle familial, que ce soit dans notre milieu social, que ce soit dans notre vie de prière, que ce soit dans notre témoignage. Beaucoup ont mis des murs, se sont pas aperçus qu'ils ont érigé des murs. Alors, par essoufflement, par découragement, par désintéressement ou autre je ne sais quoi, ils sont arrivés à conclure que... Et nous en sommes arrivés à conclure que la vie à ce moment-là, eh bien, est devenue... et s'est desséchée et est devenue stérile. C'est un peu peut-être le malheur de ce figuier que Jésus, dont Jésus nous parle dans l'évangile de Luc, où là le propriétaire vient voir s'il y a des fruits, et finalement, eh bien, même au milieu d'une belle vigne, le figuier est sans fruit. Desséché, stérile. Vous savez, Dieu nous interpelle quelquefois sur nos murs que nous mettons autour de nous. Est-ce que nous sommes ouverts ou est-ce que nous sommes fermés? Est-ce que notre esprit est ouvert? Est-ce que notre esprit est fermé à l'action du Saint-Esprit? Est-ce que nous vivons avec un conditionnement? Est-ce que nous vivons dans un cloisonnement? Ou est-ce que nous vivons dans une ouverture de la vie de l'Esprit? Un homme comme Paul était un homme formidablement ouvert. Alors on se dit, il a fait du travail, mais pourquoi? Parce qu'il était ouvert. Il n'y avait pas de mur, ni province dans l'Empire, ni région, ni homme, ni femme ne pouvaient, eh bien là, être dispensé d'entendre son message. Il pourra le dire, lui a fait des ponts. C'était un constructeur de ponts. Et il ouvrait des possibilités formidables à tous ceux et celles de son temps, de sa génération. Alors, si nous revenons à l'invitation de Jésus qui nous dit ceci, si quelqu'un a soif, est-ce que parmi nous, frères et sœurs ou amis, quelqu'un a vraiment soif? Vraiment soif. La soif, c'est quelque chose d'impérieux. Moi, je ne me suis jamais trouvé confronté avec une promenade dans le désert ou dans des régions extrêmement arides. Mais déjà, quelquefois... dans certaines situations où on a trouvé véritablement, eh bien là, qu'on avait vraiment besoin de boire. C'est une nécessité. Vous savez qu'il paraît qu'on peut se manger, on peut se passer de manger, mais on ne peut pas se passer de boire. Et celui qui meurt de soif meurt dans des souffrances terribles, déshydratation et toutes sortes de conséquences qu'il peut y avoir. Si quelqu'un a soif, alors qu'il vienne à moi, alors à ce moment-là, il boira, qu'il boive. Observons que l'appel au renouvellement est présent partout. Dieu a disposé des points d'eau. Vous avez remarqué combien il est parlé d'eau dans la Bible? Combien il est question de puits aussi? C'était extraordinaire. On rencontre là des hommes dans l'ancienne alliance. Isaac, par exemple, avec ses puits. Et puis la Samaritaine auprès d'un puits. Et puis il y a toutes sortes d'autres situations qui nous parlent finalement de ces points de ressourcement, de ces endroits où l'homme peut se désaltérer, se ressourcer, se rafraîchir. Des temps de rafraîchissement, nous dit le livre des Actes. Partout pour que nous allions nous désaltérer. Alors, je vous citerai simplement, mais je ne vais pas faire la lecture, mais Ésaïe 55, verset 1er, si quelqu'un a soif, qu'il boive gratuitement de l'eau de la vie. Je vous citerai également Jean, chapitre 4, également, c'est l'histoire de la Samaritaine. Dans Apocalypse, il nous est donné aussi de venir à ces points d'eau, de nous ressourcer. Apocalypse 22 également, il est question de ces sources d'eau vive. Juste avant de conclure, où Jésus nous dit, et nous laisse auprès d'un point d'eau, il nous dit, mais je viens bientôt, attendez-moi. Mais vous n'allez pas mourir de soif en m'attendant, si vous savez puiser là, au bon endroit, source d'eau vive. Je poursuis notre méditation, et il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Et il y aura une grande quantité de poissons, car là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines, et tout être et tout vivra partout où parviendra le torrent. Extraordinaire ce texte. Je crois qu'il est même le cœur de notre récit à travers ce qui nous est dit. L'effet de ce torrent est de fertiliter la plaine fertile du Jourdain, si nous restons dans le contexte historique, et d'assainir les eaux maudites de la mer morte. Et vous allez voir que le nom qu'elle porte, ce n'est pas pour rien. Pourquoi l'a-t-on appelée la mer morte ? La mer morte représente et typifie les péchés et le mal de l'humanité corrompue et perdue. On peut le dire de cette manière, on pourra donner d'autres explications. Mais moi je m'en tiendrai dans le commentaire de ce texte ou l'explication de ce texte. C'est un peu l'image, eh bien là, de cette mer qui finalement est entourée de murs. Et je vais vous expliquer pourquoi elle est entourée de murs. Si vous avez été en Israël, peut-être vous l'avez vue. La mer morte, qui nous rappelle la triste histoire de Sodome et de Gomorre, dont les murs se sont enflammés, est l'endroit le plus bas de la surface du globe, moins 393 mètres. Donc on peut parler de murs, de chaque côté. Israël d'un côté, le désert de l'autre côté, Jordanie. Donc on voit que tout cela, eh bien, c'est une mer qui est finalement encaissée, c'est un trou, nous pourrions dire, par rapport au niveau de la mer. On apprend également que sa salinité est telle qu'aucun poisson ne peut y vivre. Si vous avez été prendre un petit bain dans la mer morte, vous flottez. Oui, vous êtes porté parce qu'il y a un taux de sel tellement intense que finalement vous enfoncez pas. Alors n'ouvrez pas la bouche parce que là vous allez avoir des surprises. Alors, aucun poisson ne peut y vivre, et par surcroît, c'est une mer sans issue. C'est le Jourdain qui vient se jeter, et puis après, il n'y a plus rien. C'est une mer perdue, nous pourrions dire. Elle porte bien justement son qualificatif de morte. Et le torrent dont Ézéchiel nous parle, eh bien, justement, va dans cette direction. L'Évangile, la grâce de Dieu, le salut en Jésus-Christ, cette humanité sans Dieu qui lui ressemble, permettez-moi l'expression, mais comme deux gouttes d'eau excessivement salée. Ouais, ça lui ressemble. L'humanité et la mer morte, c'est pareil. Mais voilà le miracle que nous est décrit dans notre texte, le miracle de l'évangile de la vie que nous proclamons, et quand nous lisons le verset 9, tout être vivant qui se meut vivra partout, le torrent coulera. Où il va pénétrer, où il va véritablement, eh bien là, rentrer dans cette mer. Et moi, ça me fait penser à une belle parole, une proclamation de triomphe. Lorsque je lis Corinthiens chapitre 15, et que l'apôtre Paul, quand il nous parle de la résurrection de Jésus-Christ, donc de l'Évangile, au cœur même où il y a la résurrection de Jésus-Christ, il nous y dit « La mort a été engloutie dans la victoire ». Et je fais cette association parce que je dis que l'Évangile, c'est véritablement la réponse. C'est cette eau qui coule vers cette humanité perdue et qui va lui redonner la vie. Pour tous ceux qui veulent s'en désaltérer et y boire naturellement à cette source. Alors peut-être que nous, en tant que chrétiens, nous avons besoin de faire un petit peu comme à la sortie d'Égypte, comme ce jour-là, eh bien, Moïse a jeté le bâton dans les eaux de Mara. Vous savez ce que ça veut dire, Mara, amertume, la mort. Alors il a jeté le bâton, le bois, parce que Dieu lui avait donné de jeter sur ses eaux amères. Ça nous est rappelé dans Exode chapitre 15 et au verset 24. Et je crois que nous-mêmes nous sommes interpellés pour faire respirer au monde, si je peux le dire, parce que nous sommes mis à part, faire respirer au monde la bonne odeur de vie, comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens, vous retrouvez là, 2 Corinthiens, pardon, chapitre 2, verset 14. C'est le fleuve de la grâce que nous portons, de cette grâce divine, qui peut assainir même les eaux les plus sales, les cœurs et les consciences qui sont morts. Cette mer morte de notre société moribonde, dépressive, désespérée. Et je peux proclamer, comme la Bible le dit dans Ésaïe, et comme nous l'avons vu dimanche dernier, dans la réunion d'évangélisation, et je peux dire, à la loi et au témoignage, sinon il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Et je dis que si nous ne revenons pas à la parole de Dieu, que si nous ne revenons pas, nous qui sommes porteurs d'un message et d'une communication de vie, et que nous ne revenons pas aux eaux, et particulièrement aux eaux qui descendent d'en haut, c'est-à-dire la vie de l'Esprit, alors à ce moment-là, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple qui est autour de nous. Parce qu'il faut revenir, finalement, à ce que Dieu a donné. Ce que les hommes ont besoin, dans un monde qui se dessèche, dans un monde qui se meurt, dans un monde qui est salé, mais pas du sel dont nous parlons, comme Jésus nous parle, mais d'une corruption, d'une méchanceté, alors à ce moment-là, il ne peut pas y avoir de salut. Et quand je suis ce fleuve qui descend du sanctuaire, qui descend vers la mer morte, je me dis, mais Seigneur, quelle belle image prophétique tu as donnée, en attendant que Jésus vienne, comme il est venu, et comme il a accompli finalement la volonté de Dieu, et que nous, aujourd'hui, nous sommes les détenteurs de ce message pour le communiquer et continuer à le communiquer au monde qui tout autant, eh bien, se meurt. Alors, si nous ne revenons pas à ça, eh bien, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. C'est pour ça que Jésus nous a dit que nous étions la lumière. L'aurore, c'est la lumière qui se lève. Alors, suis-je, puisqu'il est question de cette question, on reste toujours sur l'interrogation, as-tu vu ? Alors, suis-je celui ou celle qui vivifie ? Est-ce que je suis celui ou celle qui apporte la vie autour de moi ? Est-ce que je suis un témoin et un évangéliste à mon niveau ? Selon ce que Dieu m'a donné, selon mes capacités, tout le monde ne pourra pas faire la même chose. Mais est-ce que dans ce que Dieu m'a donné, dans les dons, dans les talents qu'il m'a donnés, alors est-ce que à ce moment-là, je remplis véritablement la fonction ? Alors, je vous dirai en avant, tout simplement. En avant. Laissons couler et répandre le torrent de Dieu. Et n'ayons pas peur d'y aller jusqu'aux chevilles, d'y aller jusqu'aux genoux, d'y aller jusqu'aux reins et de nous laisser porter. En n'oubliant pas qu'il faut toujours revenir sur le rivage parce que ce n'est pas pour nous seulement, c'est pour que nous le donnions aux autres. Les autres sont sur le rivage encore. Ils ne sont pas au milieu du fleuve. Verset 10, il nous est précisé que des pêcheurs se tiendront sur ses bords. En-Gedi, une oasis signalée à plusieurs reprises. En-Gedi, c'est un petit peu le cantique des cantiques. Hein. Alors, c'est un poème d'amour extraordinaire, formidable. On aura peut-être l'occasion, peut-être dans les mois qui vont venir, d'étudier le livre des cantiques des cantiques. C'est extraordinaire, c'est formidable. Un très beau livre de la Bible. Donc, En-Gedi est une oasis qui doit son existence à une source abondante. C'était un peu comme Elim, si vous vous souvenez. Les poissons dont il est question, puisqu'il s'agit de pêcheurs, et là où il y a des pêcheurs, il y a des poissons. Quelquefois, j'ai vu des pêcheurs qui pêchaient où il n'y avait pas de poissons. Ça m'est arrivé. Mais là, il y a des poissons. Alors, les poissons symbolisent les âmes humaines. L'Évangile ouvre un champ missionnaire infini et comme à Pierre, qui s'est vu entendre un jour de la part de Jésus ces paroles « Ne crains point, désormais tu seras un pêcheur d'hommes ». Parce que vous avez bien compris que l'orientation de notre message, ça va aussi dans le service. Hein. C'est vrai. À ce moment-là, Pierre a entendu cette parole. En complément, tu seras pêcheur d'or, viens et suis-moi. Ça, c'est cette parole que nous avons entendue. Viens et suis-moi. Quel appel au service quand Dieu place tout au long du torrent de sa grâce, en d'autres termes l'Évangile, des pêcheurs qui attrapent des poissons de diverses espèces. Et quand nous ouvrons les pages merveilleuses de l'Évangile, nous voyons toutes sortes de poissons. Je vois un jour un Bartimée qui est pris. Je vois un Zachée. Je vois une Lydie. Et puis tant d'autres. Ah, c'était des poissons à pêcher, cela. Hein. Une Marie-Madeleine, et puis que dire encore, il y en a tellement. Parce qu'il y avait là, justement, sur les bords, finalement, des pêcheurs. Les pêcheurs avec le petit chapeau, vous savez, l'accent circonflexe. Pas se tromper dans l'écriture. Cela n'est pas non plus sans nous rappeler la parabole du filet qui est jeté dans la mer selon Matthieu chapitre 13 et verset 47. Vous le retrouverez dans votre Bible. Il nous est dit que l'homme s'en va et puis il prend des poissons et quand il revient sur le rivage, il prend et il trie. C'est le péché, c'est le pêcheur qui fait le triage à ce moment-là. Puisse le Seigneur faire de chacun d'entre nous un pêcheur d'hommes, un témoin, un proclamateur de sa grâce et ramener des filets pleins. Les temps sont difficiles pour les églises aujourd'hui, hein. C'est vrai. On a connu d'autres temps. On a connu des souffles, on a connu peut-être des réveils, mais les temps sont durs. Mais c'est pas pour ça, frères et sœurs, qu'il faut replier le matériel. Et de dire maintenant, on ne fait plus rien. Au contraire. Parce que les temps sont difficiles, le Seigneur nous donnera une grâce supplémentaire. Il nous donnera le renouvellement dont nous avons besoin. Et c'est parce que je ne vois pas physiquement, alors à ce moment-là, je vais avoir une vision spirituelle. Et je le dis au peuple de Dieu, je le dis à l'Église, afin que nous ne baissions pas les bras. Nous sommes des pêcheurs d'hommes. Et nous avons encore à jeter nos filets. Peut-être faut-il réparer quelques mailles. Parce que parfois, il y a des poissons qui s'en échappent. Et non pas en raison de celui qui nous a appelés, mais en raison de nous-mêmes. Nous avons laissé les trous béants, quelquefois, dans les mailles du filet. Et on se dit, mais les poissons s'échappent. Mais il y a peut-être des raisons sur lesquelles nous avons besoin de nous interroger. Alors, des filets pleins. C'est pourquoi nous devons être des ponts et non pas des murs. Nous devons être des ponts entre Dieu et les hommes. Le verset 11, je vais bientôt terminer. Le verset 11 nous dit ceci. Ces marais et ces fosses ne seront point assainis. Ils seront abandonnés au sel. Voilà encore une idée, une pensée qui surgit de notre récit. Nous allons parler maintenant des murs. On a parlé des ponts, on peut parler aussi des murs, c'est-à-dire de ce qui fait barrage à l'action salutaire et bénéfice du Saint-Esprit. Combien reste en marge du torrent de la vie autour de nous ? Je ne vais pas m'exercer à faire des statistiques et de voir combien il y en a qui sont sauvés, combien il y en a qui sont perdus. Ce serait prétentieux et orgueilleux. Mais toujours est-il que nous sommes conscients que parfois, eh bien, les murs se trouvent même dans nos propres vies et parfois même dans nos églises. Les murs que nous pourrions peut-être appréhender de cette manière en parlant de ceux dont le cœur est partagé. Ce sont des murs, les partages. Les hésitants perpétuels, ceux qui refusent de renoncer au péché, par exemple. De renoncer à eux-mêmes, bien que Jésus nous ait dit que si nous voulons être son disciple, nous devons porter notre croix. Ceux qui dressent des murs parce qu'ils refusent d'avouer certaines choses. Ces gens ressemblent aux marais et aux fosses, suggère le texte, qui ne seront pas assainis, mais comme la parole nous le dit, mais abandonnés au sel. C'est-à-dire, tout simplement, conservés en l'état pour être jetés dehors, selon l'expression de Jésus. Des gens qui seront sans saveur, des hommes qui seront et qui resteront sans saveur, qui passeront à côté du but même de leur existence. Pourquoi ? Ce pourquoi Dieu les a faits. Alors, ce sont des questions. Sans espoir d'aucune vie en eux-mêmes. Parce que finalement, eh bien, ils ont mis des murs. C'est vrai aussi pour les enfants de Dieu qui résistent à l'action du Saint-Esprit. Selon 2 Corinthiens, chapitre 6, lorsque nous sommes interpellés et que nous entendons cette parole pour chacun d'entre nous, nous vous exhortons, dit Paul, à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Et moi, je voudrais m'adresser peut-être à ceux et celles qui sont en train d'entendre la parole de Dieu aujourd'hui et qui, quelque part, ont érigé des murs dans leur vie. Où là, eh bien, Dieu ne peut pas accéder à votre cœur, à votre conscience, à votre esprit, et il voudrait tellement vous attirer, et vous dire, mais si tu voulais baisser un petit peu la garde, si tu voulais me laisser faire, eh bien, je te donnerai une autre vie, je ferai de toi, finalement, ce que j'ai prévu, moi j'ai un plan pour toi. Mais nous nous murons, nous nous barricadons, nous nous refusons. Alors à ce moment-là, eh bien, ces murs, finalement, vont faire que nous allons devenir un petit peu comme la mer morte. Plus nous allons nous enfoncer. Et les murs vont s'élever autour de nous. Et forcément, nous allons nous isoler. Et si nous nous isolons, nous allons eh bien, terminer par nous apitoyer sur nous-mêmes. Et il n'en sortira rien du tout. Il ne pourra pas en sortir quelque chose. La conclusion, je la tire du verset 12, où simplement, eh bien, il nous est rappelé ces paroles. « Sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point. » Et leur fruit n'aura point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Vous remarquerez avec moi que les arbres ne sont pas tous de la même espèce, et ils poussent de chaque côté du fleuve sur ses bords. D'abord, différenciation d'espèces, et puis ils poussent de chaque côté. Que Dieu nous aide à comprendre une grande leçon, frères et sœurs. Moi, je pense que c'est fondamental ce que je voudrais maintenant dire en conclusion. Que Dieu nous aide à comprendre, que le Seigneur nous aide à accepter et à aimer les frères qui ne sont pas du même bord et qui sont d'une espèce différente de ce que nous sommes. Écoutez bien ce que ça veut dire. Le Seigneur n'a pas que des chrétiens dans l'église évangélique de Saint-Nazaire. On est d'accord? Le Seigneur sait qui lui appartiennent. Il y a des hommes et des femmes autour de nous qui ont fait la même expérience que nous et qui ne sont peut-être pas de la même espèce. Enfin, vous entendez par là ce que je vous demande de comprendre, et que nous avons besoin d'aimer tous les hommes, et que nous avons besoin d'aimer aussi ceux qui se réclament finalement de Jésus-Christ. Je ne parle pas du croyant de tradition qui finalement, eh bien, se drape dans son manteau et qui se dit, bien, je suis sauvé parce que, bon, j'appartiendrai. Non, je parle de ceux et de celles qui sont repentis de leurs péchés, qui sont nés de nouveau, qui sont convertis à Jésus-Christ, et qui ont aussi la vie de l'Esprit. On est bien d'accord? Et je crois que nous avons besoin, justement, eh bien, de comprendre cette leçon, parce que ce sont des murs, ça, qui nous empêchent d'aller plus loin. Il y a écuménisme et écuménisme. Je m'entends bien. Il y a un écuménisme qui est malsain. Mais il y a aussi quelquefois une approche vers d'autres personnes qui sont des enfants de Dieu que nous retrouverons de l'autre côté, que nous ne voulons pas regarder parce qu'ils n'appartiennent pas à notre Église. C'est quelque chose de terrible, moi, je crois. Ils font partie d'une autre famille, comme dans une famille où il y a une racine, un père et une mère, il y a des enfants qui naissent de cette famille, et puis les frères et les sœurs vont se marier, ils vont vivre, ils vont construire leur famille, mais ils ne vont pas vivre ensemble, forcément. Quelquefois, il y a des familles nombreuses, et elles se multiplient. Moi, j'ai des frères. Je ne vis pas avec mes frères, mais ce sont mes frères quand même. On est du même sang. Mais quelquefois, il y a cette mentalité, cette conception qui fait parce que nous, ils n'appartiennent pas à notre Église. Alors, à ce moment-là, ce sont des gens que l'on rejette, et quelquefois, on sera encore plus dur avec eux qu'on ne l'est peut-être avec des gens qui sont de l'extérieur, qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et ça, c'est bien dommage. Dieu ne nous a pas demandé de vivre ensemble, il nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Et de savoir dire bonjour. Alors, si déjà les choses en sont dans l'état, déjà avec ceux de l'extérieur, combien ils nous appellent à nous saluer les uns les autres et à nous aimer les uns les autres au milieu de nous, en faisant tomber tous les murs. Oui. Il y a des brèches qui sont en train de se fissurer, et Dieu merci pour que les murs s'écroulent dans nos relations, dans ce qu'il peut y avoir parfois de vécu difficile. Mais vous souvenez que ce fleuve est un fleuve qui guérit. C'est un fleuve qui apporte la paix, qui apporte la guérison. Alors, je crois que ces frères aussi, ces sœurs, poussent aussi le long du torrent, parce que nous n'avons pas le monopole de l'Évangile. Nous n'avons pas le monopole de Jésus-Christ. Nous n'avons pas le monopole de la foi. Mais ils poussent aussi sur ces rivages. Et je crois qu'ils sont poussés aussi dans le terreau de la foi et de la grâce également. Des chrétiens convertis à Jésus-Christ. Je le rappelle, des hommes qui sont nés de nouveau, qui aiment la parole de Dieu. Alors, je pense que nous avons besoin tout simplement de les reconnaître. Non pas à leurs habitudes et à leur expression singulière, mais à leurs fruits. Et ça change beaucoup de choses. Et quand je parle à leurs habitudes et expressions singulières, je pense à la culture d'église dans laquelle nous sommes nés. Et si nous avons une culture d'église dans laquelle nous sommes nés, restons dans notre église. C'est vrai. Parce que il y a des façons de faire qui sont peut-être différentes et qui peuvent... Bon, restons. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que, même si nous restons, nous devons rejeter les autres pour autant. Et si nous devons les reconnaître, nous devons les reconnaître à leurs fruits. Et quelquefois, moi je me dis que certains pourraient nous donner des leçons d'amour. Des leçons de vie, d'attachement, de consécration à Jésus et à son œuvre. Certainement. Les arbres qui poussent sur le rivage, ils sont le long du torrent aussi. Des fruits de foi, des fruits de sainteté, des fruits d'amour. Alors, mes frères et mes sœurs, soyons des ponts. Je ne prêche pas le mélange. Je ne prêche pas la promiscuité. Je ne prêche pas, finalement, eh bien là, une sorte de communisme qui mélange tout. Non, c'est pas ça. Mais au moins, mettons des ponts et ne changeons pas de trottoir lorsque nous les rencontrons. Je crois que c'est une chose qui attriste le Seigneur. Et il y a une chose aussi qui attriste le Seigneur, c'est d'avoir l'état d'esprit, comme l'avait l'apôtre Jean à un moment donné, quand il était question des Samaritains qui n'ont pas voulu recevoir Jésus. On relève aussi dans notre texte que leur feuillage est toujours vert. Il est persistant parce qu'ils ont leurs racines directement plongées dans l'eau du torrent. Et c'est une image suggestive qui marque notre interdépendance et notre communion avec la source intarissable qui est le Saint-Esprit, ces eaux qui sortent du sanctuaire céleste. Oui. À partir du moment où nous restons en communion avec la source, et cette source est le Saint-Esprit, nous restons en communion, nous demeurerons verdoyants et nous porterons des fruits. Et qui plus est, nous serons capables finalement eh bien, de manifester l'amour de Christ. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimés. Les fruits, nous dit le texte, sont en toute saison. Ce qui, remarquez, aujourd'hui, on a des fruits en toute saison aussi, mais c'est pas pareil, ils sont passés au frigo, hein, d'abord, ou dans les mûrisseries. Les fruits sont en toute saison, sans discontinuer. Pour nous montrer, encore une fois de plus, et nous interpeller que nos fruits servent à la nourriture des âmes. Et vous savez, les fruits dont nous devons produire, c'est vrai pour nous, mais c'est vrai pour tout le monde, pour les autres. C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la bonté, c'est la patience, c'est la foi, c'est la douceur, c'est... Qu'est-ce que vous dites ? C'est la bienveillance, oui. Et puis il y en a encore un autre. La longanimité. Voilà, je crois que j'en ai 9, hein, il me semble. C'est ces fruits que les gens attendent, c'est pas des beaux discours. C'est pas de dire « je suis chrétien, regardez comme je suis splendide ». Ha ! Non, c'est parce que justement nous allons avoir une proche qui va être communicatrice de ces fruits, c'est-à-dire cet amour, cette joie, ce dynamisme, cette douceur, cette patience. Et les gens ne vont pas s'y tromper. Et que nos feuilles imagent l'excellence de la prière, parce que vous savez que la feuille, ça fait partie du système foliaire d'une plante, et c'est la respiration de la plante. Eh bien nous, dans la mesure où nous entretenons finalement eh bien, une vie de prière, nous allons respirer, nous allons permettre à notre âme de respirer. Et contribue à la guérison et à la bénédiction des autres, des murs et des ponts. Voilà la question. Quand l'Église aura laissé ses murs, ou abaissé ses murs, et édifié des ponts, alors non seulement elle se guérira de ses blessures, mais elle sera vraiment le remède donné par Dieu au monde, comme nous le chantons, torrent d'amour et de grâce. Vous connaissez ce cantique ? Torrent d'amour et de grâce. Alors Seigneur, je veux avancer jusqu'aux chevilles. Seigneur, porte-moi, je vais aller jusqu'aux genoux. Seigneur, je vais aller encore plus loin. Tu vas me conduire à être immergé jusqu'aux reins et à un moment donné, tu vas me porter. Tu vas me conduire au milieu du fleuve et à ce moment-là, eh bien, tu vas me permettre, parce que j'ai été moi-même inondé, moi-même je vis cette plénitude. Je poserai les pieds sur le rivage où il y a tant d'arbres, tant de gens qui sont là desséchés pour que je puisse leur apporter ta bénédiction, c'est-à-dire ce torrent de grâce, ce torrent d'amour, ce fleuve qui vient de Dieu, qui sort du sanctuaire. Que Dieu nous bénisse ce matin. Que Dieu nous donne sa grâce. Amen. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te remercier parce que tu es vivant, tu es merveilleux et tu ne nous as pas appris autre chose que finalement de t'aimer et d'aimer les uns les autres. Oui, Seigneur, nous croyons, Père éternel, que, en effet, l'insulte faite à l'amour, ce sont des murs. Que, en effet, Père éternel, la glorification de ce que tu nous as appelés à être, eh bien, c'est de pouvoir véritablement être des constructeurs de ponts. Et si je dois commencer, c'est peut-être par commencer par mon mari, par ma femme, par mes enfants, par mes amis, avec lesquels je ne m'entends pas tout à fait toujours. Ou peut-être surtout, Seigneur, avec mes frères et mes sœurs, donne-moi de construire des ponts, Seigneur. Donne-moi aussi, Seigneur, de pouvoir étendre ces ponts, Seigneur, vers ceux et celles qui sont autour de moi et qui n'appartiennent peut-être pas à la même église que moi, mais qui croient en Jésus-Christ d'une manière aussi honnête que je crois en lui, d'une manière aussi sincère, aussi véritable, qui s'appuient sur ta parole, qui ont fait l'expérience du pardon de leurs péchés, qui ont fait l'expérience de la nouvelle naissance, qui ont fait l'expérience du baptême du Saint-Esprit, pourquoi pas. Alors à ce moment-là, Seigneur, donne-moi de faire tomber un petit peu tous ces murs, et ainsi d'aller véritablement dans ce sens. Donne-moi aussi, Seigneur, de pouvoir être ce pêcheur à la ligne ou au filet qui se tient sur les bords parce qu'il y a tant de poissons, Seigneur, qui sont là, en effet, et qui attendent d'être pris dans les filets du Maître, des Achées, des Lydies, des Corneilles, en effet, Seigneur, et tant d'autres. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir véritablement, Père éternel, être communicateur de vie. Seigneur, dans le nom de Jésus, tu ne nous as pas appelés à nous renfermer sur nous-mêmes, à ériger des murs. Au contraire, tu nous as dit « Je ne t'ai pris pas de les ôter du monde, mais de les garder du mal qui est dans le monde. » Ce qui veut dire, Seigneur, et ce que j'ai besoin de comprendre, c'est qu'en effet, Père éternel, si les murs deviennent une protection, si les murs deviennent quelque chose qui me renferme sur moi-même ou nous renferme sur nous-mêmes, eh bien, nous manquons à notre vocation. Mais Seigneur, si avec le même mortier, avec les mêmes pierres, je construis des ponts, alors je vais aller vers. Puisque c'est pour cela que tu m'as appelé. C'est pour cela que tu m'as sauvé, pour aller vers. Et je veux te rendre grâce et te remercier. Et puis peut-être dans nos vies personnelles, il y a peut-être aussi des murs qui tiennent debout, Seigneur, depuis longtemps et qui sont consolidés, Seigneur, parfois par un état de cœur, par des chagrins, par des peines, par des souffrances, par des blessures qui n'ont jamais été pensées, par un état d'esprit, Seigneur, qui n'est pas forcément des meilleurs. Et je construis, je remets toujours des pierres sur le mur, alors que tu m'appelles ce matin, Seigneur, à me jeter dans le fleuve, à me jeter dans le torrent, pour que véritablement tu me libères. Ah, Seigneur, dans le nom de Jésus, je te demande de faire comprendre à tes enfants, Seigneur, que parfois, eh bien, ils se dessèchent sur place. Ils sont là, Seigneur, affamés, assoiffés, alors que toi, tu veux ouvrir les digues. Seigneur, je me place devant toi et je te demande, Seigneur, que tu m'aides à ouvrir les digues. S'il te plaît, Seigneur, pour que je puisse être abreuvé, que je puisse être inondé, que je puisse être immergé, submergé, et que je puisse être comme le prophète. Eh bien, Seigneur, nager, surnager, transporter, porter au milieu du fleuve de la grâce de Dieu. Merci, Seigneur, pour ta bonté, ta fidélité. Louange et gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons ce matin. Nous voulons élever notre voix, nous voulons te dire, Seigneur, que ta parole est un encouragement, ta parole est une main tendue pour chacun d'entre nous. Alors tu nous visites, tu nous bénis, tu nous fais du bien, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.